Bonjour Ray.
Bonjour Paul et Alain.
Salut Ray.
Alors, on va parler de la place et des opportunités de carrière des femmes au niveau du sport professionnel.
Absolument. Il y a un moment historique qui est survenu hier lors d'un match de la NFL. Écoute, c'est un match anodin, là. L'équipe de football de Washington, autrefois les Redskins, contre les Browns de Cleveland, qui sont loin d'être l'équipe qui a connu le plus de succès. Alors, lors du match, une femme entraîneur adjoint chez les Browns, une femme entraîneur adjoint chez l'équipe de Washington et une femme officielle durant le match. C'est la première fois de l'histoire que trois femmes occupent des postes importants sur les lignes de côté là, pour les deux femmes coach lors d'un match de la NFL. Puis on progresse, puis je veux les souligner. Jennifer King, c'est l'entraîneur adjointe à Ron Rivera avec l'équipe de Washington. Quand je dis l'équipe de Washington, c'était autrefois les Redskins, mais là maintenant on a changé le nom, donc je vais m'en tenir à l'équipe de Washington. Il l'avait embauchée comme adjointe en Caroline avec les Panthers, puis quand il y a eu le poste avec l'équipe de Washington, ben il l'a emmenée avec elle. Alors ça, c'est très important puis pertinent. Callie Brownson, elle est membre du personnel des Browns avec Kevin Stefanski, l'entraîneur-chef. C'est des postes qui sont évidemment pas des stagiaires, pas des adjoints d'une position à temps plein, mais c'est des postes à temps plein où on travaille avec l'offensive ou avec la défensive. Donc, il y a quand même un rôle important à jouer. Et Sarah Thomas, première femme comme officielle dans la NFL en 2015, elle demeure la seule femme aujourd'hui comme arbitre dans la NFL. J'ai tweeté une photo tout à l'heure des trois femmes. C'est un moment quand même historique parce que c'est pas les femmes dans le sport de femmes, Paul. C'est les femmes dans les sports masculins.
Mais comment ces femmes-là ont pu atteindre le poste qu'elles ont aujourd'hui? C'est-à-dire comment une femme peut devenir arbitre au football professionnel?
Absolument. Puis il y en a au hockey, puis il y en a au basketball, puis j'arrive à ça dans quelques minutes. La réponse à ça, Paul, c'est la même réponse que les hommes. Travailler d'arrache-pied, être bien formé, bien éduqué, être passionné, avoir confiance et avoir faim. Finalement, c'est les mêmes caractéristiques puis les mêmes exigences qu'un homme. Il n'y a pas de différence dans le potentiel homme versus femme.
Non, mais ça doit être plus compliqué pour une femme de passer toutes ces étapes-là.
C'est sûr. Puis c'est là, une fois qu'on élimine l'aspect physique de compétition, les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes. C'est sûr qu'elles ne peuvent pas compétitionner contre les hommes, bien sûr, mais elles peuvent obtenir les mêmes postes, surtout les postes de direction. Bon, depuis 2015, il y a eu 7 femmes entraîneurs à temps plein dans la NFL, puis 15 autres stagiaires. C'est quand même bien, considérant qu'il y a 32 équipes. L'année passée, là, en février, on avait parlé ensemble. Katie Sowers était devenue la première femme à coacher lors d'un Super Bowl. Elle est membre du personnel des 49ers. Puis dans la NBA, il y a 11 femmes entraîneurs à temps plein sur le banc parmi les 30 équipes. C'est plus qu'un tiers des équipes. Et la plus connue, parce que ça, c'est une question que tu m'avais déjà posée, c'est Becky Hammon des Spurs. Tu m'avais demandé, y a-t-il un jour, on va voir une femme coach derrière un banc des Canadiens?
Mm-hmm.
Puis, je te dis aujourd'hui, à mon avis, d'ici un an ou deux, Becky Hammon, qui est en poste depuis 2014 avec les Spurs, qui a des entretiens régulièrement comme interview avec les équipes, va devenir la première femme entraîneur-chef d'un club de la NBA. Puis, c'est pas peu dire. Puis c'est encore une fois au mérite d'être la ligue la plus progressive. La NBA va y aller. En passant, les Raptors comptent aussi sur Brittany Donaldson, une jeune femme de 27 ans, adjointe à temps plein à Nick Nurse. Alors, on progresse. Au hockey, là, dans les postes importants, Kim Pegula, elle est propriétaire des Sabres de Buffalo. Heidi Browning, elle est vice-présidente de tout le marketing de la Ligue nationale de hockey. Hayley Wickenheiser, qu'on connaît pour ses exploits sur la glace, directrice adjointe du personnel des joueurs des Maple Leafs de Toronto. À la fin, les postes dans les opérations hockey, il y en a seulement 4% qui sont détenus par les femmes. Mais on progresse. Puis on progresse, puis on découvre des nouvelles fonctions où les femmes peuvent faire le travail aussi bien que les hommes. Je pense à journaliste, analyste, descripteur, vice-présidente, commissaire, comme dans la WNBA, c'est une femme bien sûr, présidente d'équipe, il y en a. Propriétaire, Jenny Bush, des Lakers de Los Angeles, qui sont en finale de l'NBA, elle est la propriétaire de cette équipe-là. Puis on commence à voir des petits mouvements dans la direction de l'égalité, puis on a raison d'être optimiste. Puis ce sujet-là d'intégration des femmes, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça prend du temps de décortiquer tout ça. Mais je veux qu'on réfléchisse à comment on peut un jour transformer cette approche-là. Puis l'approche, à mon avis, c'est de revoir le modèle d'affaires pour les femmes dans le sport, pas juste pour les postes de direction, mais comment le sport est présenté pour les femmes consommatrices de sport. tout le monde va dire « Ouais, mais le sport d'homme, c'est plus vite, c'est plus excellent, c'est plus extraordinaire, c'est plus athlétique, c'est toujours meilleur. » Oui, mais c'est parce qu'on le présente comme ça puis on n'a rien vu d'autre. Si jamais on présentait une autre façon de consommer le sport, une autre réflexion, puis je vais te donner l'exemple qui me vient toujours en tête. Si vous vous rappelez de Blockbuster Vidéo, quand Wayne Huizenga avait fondé cette compagnie-là en 87, il offrait des DVD, des films, des cassettes sur location. Puis 10 ans plus tard, en 97, Netflix est arrivé. Puis Netflix a complètement transformé la façon dont on consomme des films. Puis en 2010, Blockbuster fait faillite. Puis Amazon, qui a été fondé en 94 avec des livres puis des films, est devenu graduellement plus tard avec des jouets, a mis fin au commerce de jouets comme les Toys R Us, les magasins de livres, les grandes surfaces qui ferment tour à tour, parce que Amazon a réinventé la façon de consommer. Puis le meilleur exemple, c'est Kodak. Kodak, qui était dans les appareils photo puis les films, ils ont inventé les photos numériques en 1975. Mais ils n'en ont pas parlé, puis ils ont gardé ça à l'interne de peur de cannibaliser leur business d'appareils photo puis de films. Qu'est-ce qui est arrivé? Kodak n'existe plus. Kodak, ça a été acheté par quelqu'un d'autre. Ils ne sont plus dans le business de films parce que les Apple puis les grands mondes du numérique et les photos numériques ben, ont pris le dessus sur notre société. Finalement, c'est parce qu'on n'avait jamais envisagé faire des changements comme ça. Puis la conclusion pour moi, c'est qu'il va falloir qu'on regarde une façon différente de créer le sport pour les femmes. Ça, c'est un processus d'une décennie. Mais je pense que c'est la prochaine chose qui reste à arriver dans l'univers du sport.
Merci, monsieur.
À demain.
Bonne journée. À demain, 8h29. Je peux vous dire que j'ai des courriels de Snowbird, d'oiseaux d'hiver qui tapent du pied, là. Hein? Il y en a qui me donnent des détours pour éviter la frontière. Je ne commencerai pas à faire ça en onde, là. Mais, puis t'as des gens qui sont confrontés parce que l'hiver, ils sont pas ici normalement, donc ils ont pas de logement, ils ont pas... Mais là, il faut qu'ils trouvent une place.
Et traverser la frontière illégalement, je suis pas sûr que c'est une bien bonne idée, ça.
Non plus.
Faites-vous pas pogner.
Non plus, je pense que c'est pas une bonne idée, mais c'est vrai que il y a des gens qui partent pour la Floride en avion, puis ils y vont, mais ouais. Bon. Puis là, je pense que si c'est vrai qu'on a cette deuxième vague, je regardais les cas, il y a pas qu'au Québec, là, l'Ontario aussi est pas mal secoué. Pas certain qu'on va rouvrir les frontières officiellement terrestres.
Mais t'as un moyen, les gens qui ont des Winnebago, par exemple, tu peux les faire transporter.
Oui, oui. Coûte cher, ça, un peu.
Ah non, c'est sûr que là, si tu tiens absolument à passer l'hiver en Floride, là...
C'est ça. Monsieur, ça a l'air de quoi sur le réseau La 15 en particulier?